Shalom à tous, Hanouka Sameach. C'est un peu difficile de parler avec tous les cours que vous avez eus d'arriver vers la fin, c'est un challenge. Aval Bezrat Hashem, en Bet HaMidrash, il n'y a pas de Bet HaMidrash sans Chidushim, sans renouveau, renouvellement de sens. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Bezrat Hashem. J'ai besoin de partage d'écran pour vendre mes korot.
C'est fait.
Yofi. Vous voyez là?
Ouais, très bien, Rav.
Ok, alors on y va. Quand on parle de Hanouka, il y a plusieurs dimensions. Dans chaque événement de la Torah, il y a plusieurs dimensions. L'événement le plus extérieur, qui va être par rapport à l'historique. Attendez, je vais revoir normal, après je vais reprendre la feuille. De toute façon, on va voir les visages et si vous avez des questions. Il y a le principe de base, il est le suivant. Quand on parle de Historia, en ivrite, le mot historia, c'est toldot. Okay, on apprend ça dans les parachutes Bereshit, les engendrements, l'histoire d'Israël, toldot Israël. Les toladot, c'est les engendrements. Toldot, c'est ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Toldot Israël, c'est l'histoire d'Israël. Or, on sait que historien en ivrite, moderne, on écrit historia. D'accord ? Historia, c'est tout mot qu'on récupère du monde latin, gréco-latin, de la langue gréco-latine. On va mettre en tête, quand il s'agit du T, on va le transformer avec la lettre tête. Mais on sait que le Rav Kook, le père, le Rav Avraham Yitzchak Kohen Kook, lui écrivait Historia avec Tav. Historia. Et son fils disait, pourquoi il écrivait avec Tav? Est-ce que vous voyez le tableau ou pas du tout? Attendez, voilà, ça c'est à plus de moins de trucs. Il écrivait avec Tav pour dire qu'en fait, il y a le mot Seter. C'est quoi Seter? C'est caché. C'est bien? Il disait la chose suivante, une personne qui étudie l'histoire d'Israël, les toldot d'Israël, il étudie en fait Esther Ya. Ya, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, et Esther, ça veut dire ce qui est caché, la main cachée d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et si tu n'es pas capable d'analyser la main d'Hachem, la main du divin, qui dirige les événements historiques de ce monde, alors tu ne vas pas voir l'Ashgachat Hashem, la providence divine de ton époque, de ta génération. Et tu vas facilement tomber, c'est un genou du Rav Ziouda, non, je ne sais pas si c'est du Rav Ziouda, en tout cas de ses élèves, tu vas facilement tomber dans la hystérie. Hystérie dans l'hystérie. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas capable de rattacher tous les événements au projet divin, alors forcément, il est perdu, il est bachocher, il est dans l'obscurité. Donc forcément, il va tomber dans l'hystérie, dans l'incompréhension et la panique de « mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'il va avoir ?» Or, la sagesse de nos sages, et la sagesse des sages d'Israël qui savaient voir Binouche et notre Dorador, qui savaient contempler les années des générations et des générations, ils savaient contempler quel était l'Ashgachat Hashem, la providence divine, l'action divine à chaque génération. Et donc, ils savaient exactement analyser qu'est-ce que Hashem est en train de faire à Israël en particulier et à travers Israël, à l'humanité tout entière. Donc, à chaque fête, lorsqu'on se pose des questions, mais qu'est-ce que c'est la fête, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, il y a eu un événement historique qui s'est passé et qui continue, qui perdure à travers le temps d'une autre manière, qu'il faut retrouver, qu'il faut renouveler, puisque la bracha qu'on fait, c'est « Bayami ma'em bazemanazé », ces jours-ci, vraiment, il y a de nouveau Hanouka, il y a de nouveau les lumières de Hanouka, il y a comme de nouveau la victoire des Hashmonaïm, la victoire des Asmonéens face aux Grecs, face à la culture grecque, et donc on doit revivre ces événements, et d'abord, avant, pour pouvoir les revivre, il faut véritablement comprendre qu'est-ce qui s'est fait. Bon, Hachem, le monde de la halakha nous encadre pour pouvoir réaliser tous les idéaux et toutes les pensées et toutes les profondeurs que cette fête porte en elle. Toute la halakha, quand un homme d'Israël va réaliser la halakha, il va dévoiler de manière extérieure toutes les plus grandes profondeurs qui font la particularité de la fête. Nous, qu'on essaye de comprendre au-delà des actes, au-delà des mitzvot, on essaye de comprendre le sens profond, alors on essaye de comprendre la neshama, de rencontrer l'intériorité. Mais cette intériorité, cette profondeur de sens, cette profondeur de compréhension, cette profondeur de signification, forcément, elle doit après se réaliser dans l'acte qui s'appelle la mitzvah. C'est pour ça que on dit ner mitzvah vetorah or, la Torah c'est une lumière, mais la ner et les nerot de Hanouka, c'est l'acte. On parle d'une action concrète que les Hashmonaïm ont fait et que nous perdurons dans le temps. Alors, pour pouvoir bien comprendre cette historia, il faut comprendre Deux dimensions. Il y a deux dimensions par rapport à Hanouka qu'il faut comprendre par rapport au temps. La première des choses, où placer, au niveau de notre histoire d'Israël, où placer l'événement de Hanouka? Quand on place l'événement de Hanouka, on retrouve au niveau du peuple d'Israël l'événement de Hanouka, que d'après un Midrash, Hanouka, le 25 qui se lève, à l'époque où on était encore dans le désert, la première année où on était sorti d'Égypte, on était dans le désert, on avait fini la construction du Mishkan, la construction du tabernacle. Et on voulait l'inaugurer tout de suite, on voulait faire la Hanoukat à Mishkan, l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan, c'est le temple, le Beth Amikdash portatif, le temple portatif qui était dans le désert avec les enfants d'Israël. Mais on a attendu. On a attendu le mois de Nissan pour pouvoir inaugurer le Mishkan. Et un Midrash connu qui dit, que HaKadosh Baruch Hu a dit, ce 25 qui se lève, il est resté en attente. Il est resté en attente parce qu'on lui avait le potentiel d'inaugurer le Mikdash, d'inaugurer le temple de Yerushalayim, le temple de Jérusalem. Ici, ça aurait dû se réaliser à l'époque du temple, mais ça va se réaliser beaucoup plus tard. Et les Hashmonaïm, ce sont eux, les Asmonéens, les Juifs qui sont révoltés contre les Grecs et qui vont purifier le temple, qui vont de nouveau rallumer la menorah pour au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. Ils vont inaugurer le 25 qui s'élève, le fameux 25 qui s'élève qui restait en attente depuis la sortie d'Égypte. Alors pourquoi on est obligé de ramener ce Midrash? D'après ce Midrash, tu ne peux pas déconnecter Hanouka depuis la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct entre le Ham Israël qui est sorti d'Égypte et Hanouka. C'est comme si la lumière qui était le 25 qui s'élève de la première année où le peuple d'Israël était libre, c'était le premier 25 qui s'élève où le Ham Israël vivait ce 25 qui s'élève dans toute la liberté. Pourquoi? Parce que la première année, c'est la première année, c'est la première fois le 25 qui s'élève où le peuple d'Israël est libre. Ça va se réaliser de nouveau, alors beaucoup d'années plus tard, près de 1000 ans plus tard, à Hanouka, à l'époque des Asmonéens. Et on va essayer de voir exactement au niveau de l'histoire comment ça s'est passé et à travers les psukim. Alors regardez, on a ici la frise très 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 connue. En fait ici, on reprend ce que la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah nous dit, que le monde au niveau de l'histoire, le monde comme on connaît aujourd'hui, passe pendant une période de 6000 ans. Nous sommes en 5782, donc il nous reste 218 ans, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il faut aller très très vite. Et ici, vous avez en fait ce que la Gemara nous dit, on a 2000 ans, les deux premiers millénaires sont appelés sous le nom de Tovavu, c'est-à-dire que un peu le désordre dans ce monde. Il y a un manque de lumière, il y a un manque d'ordre, qui revient du mot or, qui veut dire lumière, caniré, il semblerait. Mais ici, nous avons les 2000 ans de Torah. Les 2000 ans de Torah, c'est le 3e millénaire et le 4e millénaire. En fait, toute l'histoire d'Israël, elle se passe ici dans ce 3e et 4e millénaire. Maintenant, une chose très importante à comprendre. Lorsque on a quitté, on est sorti d'Égypte, on va rentrer en Eretz d'Israël, on va avoir beaucoup de temps avant la construction du premier Beth Amikdash. En effet, le Beth Amikdash, c'est seulement près de 440 ans après notre sortie d'Égypte et notre rentrée en Eretz d'Israël qu'on va construire le Beth Amikdash. Comment c'est possible d'attendre autant de temps? Parce qu'il faut une maturité spirituelle et une maturité au niveau de notre nation pour être capable de construire à Yerushalayim le temple de Jérusalem. Et là, la première date qui est importante, je ne sais pas si je peux faire, je vais essayer de faire plus en zoom, un petit zoom exactement. En 2928, nous avons la construction du temple de Jérusalem, le premier Beth Amikdash, et c'est le roi Salomon, le roi Shlomo, qui va construire ce temple de Jérusalem. Ce temple de Jérusalem va être pendant une période de 1 an et demi, 2 ans, on va vivre, et ça c'est important de le souligner, on va vivre l'âge d'or du peuple d'Israël. Pourquoi l'âge d'or? Parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, le roi Salomon va être le roi tzaddik de la nation, tzaddik qui est la nation d'Israël, et il va devenir le centre du monde. Tous les royaumes aux alentours vont rendre visite au roi Salomon pour rencontrer sa sagesse, écouter sa sagesse, et on va sentir la grandeur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, il y avait la Gemara, il y avait de l'or, de l'argent à Jérusalem, peut-être pas ailleurs, mais à Jérusalem, c'est une ville très riche, très forte, très politisé, etc. Et on était la lumière des nations. On a goûté au summum du peuple d'Israël, on peut dire le summum de l'histoire de notre peuple, pendant 2 années à l'époque du roi Salomon. Ensuite, très vite, quand Salomon va chuter au niveau spirituel, même si après il fera tshuva et la Torah témoignera comme quoi il est resté, il est mort tzaddik, il va avoir la fameuse schisme du peuple d'Israël, la séparation du peuple d'Israël en deux. On va voir le royaume d'Israël. On va au nord, on va voir le royaume de Juda, de Jérusalem et vers le sud. On va avoir deux États d'Israël, deux rois d'Israël. Une catastrophe pour l'histoire d'Israël. 100 ans avant la destruction, plus de 100 ans avant la destruction du premier temple, il va avoir les fameuses 10 tribus perdues. Le Ham Israël va se séparer dans le monde entier, va se disperser. 10 tribus du Ham Israël vont quitter, vont être déportées de la terre d'Eretz Israël. Et jusqu'à ce jour, on a des difficultés à les ramener. On ne les ramène pas, on ne les retrouve pas. On a, bon, Hachem, le Chevet Dan, c'est les Éthiopiens. On a Chevet Menaché, peut-être des restes du Chevet Menaché. Mais il nous manque encore ces fameuses 10 tribus qui ne sont pas encore revenues, 2500 avant, ne sont pas encore revenues en Eretz Israël. Et il reste uniquement le Chevet Yehuda, la tribu d'Yehuda, Judée, la tribu de Binyamin, une partie des Kohanim, une partie des Lévites. On est à Yerushalayim, au royaume de Judée, et il va se passer la terrible destruction du premier temple avec Babel. Et on a la rencontre, en fait, avec le premier empire qui vient détruire Israël. Ce premier empire, c'est Babel. Babel, c'est l'Irak d'aujourd'hui. L'empire babylonien qui conquit une grande partie du Moyen-Orient et qui veut à tout prix dominer ce Moyen-Orient, quitte à faire des guerres, quitte à écraser, et c'est ce qu'il va faire avec Israël. Israël n'acceptera pas la servitude au roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, elle va se rebeller contre lui, et à maintes reprises, Nebuchadnezzar va vouloir écraser et va réussir à écraser Israël, mais il va avoir des rébellions contre le roi Nebuchadnezzar, et par conséquent, le peuple d'Israël va se retrouver dans une situation terrible que Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar n'a que d'autre choix que venir détruire Jérusalem et détruire le Beth Amidash, le premier temple qui a été construit par Shlomo. On est en 3338. En 3338, il y a la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a duré, premier temple, a duré 410 ans et le Ham Israël va commencer la galoute de Babel. Qu'est-ce que c'est la galoute de Babel? Alors, c'est marqué mes fourrages dans les psukim. Je vais vous montrer tout de suite les psukim. Les psukim parlent. Les psukim parlent. Bon, je veux dire, BLP, on n'a pas besoin de trucs. Akadosh Baruch Hu va parler par Yirmiyahu, le prophète Jérémie de l'époque, et il dira la chose suivante, qui les filles Melot Shenot, Shivim Shana, les Bavel, qui les filles Melot, les Bavel, Shivim Shana, Evkod Etrem. Lorsque se rempliront les 70 ans dans l'exil de Bavel, Evkod Etrem. Qu'est-ce que veut dire Evkod Etrem? C'est Akadosh Baruch Hu, Dieu, qui se tourne vers le peuple d'Israël, il dit, dans 70 ans, je me souviendrai de vous. Et je me rappelle de mon peuple d'Israël, et vous retournerez, va kimoti alechemin variatob, la shivetrem el hamakomazé, pour vous ramener vers cet endroit. Quel est hamakomazé, cet endroit avec un he majuscule, lettre article définie? On parle bien sûr de Yerushalayim, de Jérusalem. On parle bien sûr du Beth Amikdash. On parle bien sûr du centre d'Israël. Et là, hein, on va attendre. On va attendre 70 années pour permettre le retour en Eretz Israël. En plein exil de Babel, après 52 ans, il va avoir la chute du royaume de Babel. Et qui va se lever à la place de Babel vient le deuxième empire vers, en face de qui nous devons affronter, nous avons à faire face au nouvel empire qui se dresse au Moyen-Orient, qui s'appelle la Perse, Paras, Umaday et Mède. C'est-à-dire les Perses et les Mèdes vont se dresser et eux vont prendre la place de Babel, vont conquérir les territoires conquis par Babel, et eux vont avoir la suprématie, surtout le Moyen-Orient, à tel point que dans la Megillat Esther, on parle du roi d'Achashverosh, on dit qu'il dominait 127 provinces, c'est-à-dire qu'il dominait le globe tout entier, d'après certains Midrashim. Mais au niveau historique, nous avons que oui, la Perse a dominé après Babel, et domine ce continent-là. Que se passe-t-il par rapport à notre histoire? Par rapport à notre histoire, alors ça, je suis oui obligé de montrer pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Attendez. Est-ce qu'en attendant que je sors le deuxième document, est-ce que jusque-là, c'est-à-dire, ça va un peu vite parce que j'ai vraiment besoin de. Ok. Alors, regardez. Ici, on a dans Ezra, vous voyez Ezra à gauche, Sefer Ezra, au début de Ezra, il y a les premiers psukim du prophète Ezra. Ezra Sofer, on l'appelle Ezra le scribe, mais c'est des paroles de prophétie, ils ont été inscrits dans le Tanakh. Là-bas, il se passe, à l'époque du royaume de Perse, il va avoir un roi qui va se lever, roi de Perse, et qui s'appelle Koresh. La Gemara dans Maseret Megillah dira que Akadosh Baruch Hu lui-même, Hachem, voulait faire de Koresh, Koresh en français c'est Cyrus, voulait de faire de Koresh son Mashiach. Le roi Mashiach, le roi Messie. Maintenant, quand on pose une question comme ça, c'est que la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire d'un goy le Mashiach, le Messie, comment est-il possible? Alors regardez d'abord quel est l'esprit messianique qui traversait Koresh à l'époque de la fin de l'exil de Babel. Alors regardez les psukim. Ko amar meler Koresh meler paras. Ainsi parle Koresh, Cyrus, roi de Perse. Comme amlachot, Ares Natani Hashem Elokei Hashamayim. Toutes les terres, toutes les royautés de cette terre me les a données Dieu, roi du ciel. Veufakad alai livnot lo bait Yerushalayim. Il m'a ordonné à moi de lui construire une ville, une maison, slicha, à Jérusalem. Asher Bi-Yuda, qui est en Judée. On parle de Jérusalem en Judée, qui en Eretz Israël, en Judée, etc. Le Jérusalem, la Jérusalem. Et là, le Meler Koresh dit, Mi Bachem Mikol Amo, Yelo Avimo, Veya'al Yerushalayim. Qui parmi tout son peuple, que Dieu soit avec lui, que son Dieu soit avec lui, Veya'al Yerushalayim, et qui monte à Yerushalayim pour construire le Beth Amigdash. Et là, la Gemara nous dit, waouh, mais c'est si Koresh, il désirait reconstruire le Beth Amigdash. Maintenant, je peux comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu avait décidé de faire de lui le Mashiach. Mais la Gemara demande, mais pourquoi Hachem n'a pas fait de lui le Mashiach? Puisqu'il veut reconstruire le Beth Amigdash, il veut ramener les Juifs en Eretz Israël. Et là, la Gemara de répondre, elle dit, Mi bachem mikol amo, yelo avimo veyal. Il a marqué « Qui parmi son peuple désire ça ?» Et qui monte lui. Et la Gemara dit « Au lieu d'aider les Juifs à reconstruire Eretz Israël, à reconstruire Jérusalem, à reconstruire le Beth Amigdash, il a donné juste la permission aux Juifs, mais il ne les a pas aidés dans leur action. Mais s'il les avait aidés de reconstruire Jérusalem, de reconstruire le second temple, alors là, ça aurait été le Mashiach. » Maintenant, que s'est-il passé, Ben? Il s'est passé une chose terrible. Vous prenez un Tanakh, vous avez un Tanakh à la maison, une Bible, vous prenez ici, j'ai une édition israélienne, en ivrite tout entier, mais en français, ça doit être la même chose. Lorsqu'on voit tous les livres du Tanakh, alors, qu'est-ce que c'est le Tanakh? C'est la parole d'Hachem acquis au Ham Israël. Sans le Ham Israël, jamais on n'aurait pu entendre les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, c'est l'adresse avec laquelle Akadosh Baruch Hu s'adresse. Hachem s'adresse à l'adresse qui s'appelle Israël. Et c'est pour ça qu'Israël s'appelle Yasharel, c'est même l'être Yasharel, directement en contact avec Hachem. Tant qu'il n'y a pas le peuple d'Israël, il y a l'impossibilité d'entendre le Dvar Hashem, la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Bereshit, qui va nous dévoiler Bereshit? C'est seulement quand le Ham Israël sera là. C'est seulement quand Moshe Rabbeinu sera là. Et Moshe Rabbeinu, il est là. Seulement quand le peuple d'Israël est là. C'était pas, on n'a pas écrit la Torah à l'époque de Abraham. C'est Moshe qui a écrit toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à la fin de l'aîné Kol Israël. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que on a marqué, toutes les prophéties, elles ont été écrites selon la continuité et le développement de l'histoire du peuple d'Israël. Et le dernier livre qui est mis en général dans les Ketuvim, c'est les hagiographes, donc la dernière partie du Tanakh, c'est Divrei Hayamim. C'est quoi Divrei Hayamim? Divrei Hayamim, c'est les chroniques. Divrei Hayamim, pour ceux qui connaissent, c'est un résumé de toute la Torah. C'est un résumé très, très concis des générations, des toladot, des engendrements et des événements majeurs qui se sont passés durant toute l'histoire depuis Adam Harishon. Et quelle est la dernière histoire? Quelle est la dernière prophétie? Quelle est la dernière parole divine qui est mise dans le livre du Tanakh, dans le livre de la Bible, the Bible, le livre par excellence, le livre de l'âme Israël, mais même de l'humanité? Alors regardez qu'est-ce qui est mis. Je l'ai pas fait, mais vous pouvez avoir confiance. Divrei Hayamim, le dernier verset. Il y a marqué: Ko amar Koresh meler paras, kom amalachot ha'aretz natan li Hashem, Elokei Shamayim, ve'ufakad alai livnot lo bayit b'Yerushalayim asher b'Yehuda. Il répète le même verset qui se trouve dans Ezra. Mais ça, on a l'habitude. Divrei Hayamim, il répète des versets qui ont été déjà écrits. Mais le dernier verset des chroniques, c'est-à-dire le dernier livre de tout le Tanakh, c'est un verset qui se réfère à Ezra et qui dit ce qu'on vient de lire, l'histoire de Cyrus, la déclaration de Cyrus. À tous les Juifs du monde entier, parce qu'il dirige le monde entier. Il a les 127 provinces comme Assuérus, comme Achashverosh, qui viendra juste après lui. Il appelle les Juifs de retourner en Eretz Israël. Maintenant, regardez la chose terrible. Et il y a marqué « Mi bachen mi kolamo » qui parmi son peuple sera avec lui. « Veyal » et il montre. Il appelle à la Aliyah. Il appelle au retour en Eretz Israël. Mais pourquoi c'est terrible? C'est terrible parce qu'après, vous savez ce qu'il y a après? Du blanc. Du blanc. Après, le Tanakh est fini. La Bible, elle a été fermée. Et pourquoi elle a été fermée? Pourquoi on n'a pas pu continuer à écrire? Parce que l'âme Israël n'est pas retournée en Eretz Israël. Nous ne sommes pas rentrés à Yerushalayim. Et à partir du moment où la nation d'Israël a décidé de rester en Galoute, le Tanakh se ferme. La parole divine se ferme. Akadosh Baruch Hu n'a plus à qui s'adresser parce qu'il n'a pas l'adresse qui est Israël directement relié avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir le message. La voix s'est tue. Question. Pas de question. Bien fait. Eh bien, vous pouvez rester sans parler parce qu'il n'y a rien à dire. On n'a plus rien à dire. Comment le Ham Israël ne monte pas? Rabbi Yehuda Lévi, qu'on étudie dans le cadre de justement Yeshiva Online tous les dimanches, Rabbi Yehuda Lévi, lorsqu'il parle d'Eretz Israël, il dit, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque du Second Temple, avant justement à l'époque de Cyrus. Les Juifs n'ont pas voulu retourner en Eretz Israël. Les Juifs sont restés à Babel. Et c'est à cause de ça que HaKadosh Baruch Hu n'a pas ramené sa Shrina au Second Temple, n'a pas ramené sa présence divine lors du Second Temple. Et à la même époque, après que HaKadosh Baruch Hu fait appel aux Juifs, il va y avoir un Juif qui va monter en Eretz Israël avec d'autres Juifs, mais un Juif essentiel que vous connaissez tous, Mordechai à Yehudi. Mordechai, qu'on va retrouver dans l'histoire de Purim, lui va monter en Eretz Israël. Avec Zerubbabel, avec Daniel, peut-être il est monté à cette même époque d'après la Gemara. C'est-à-dire, on va retrouver des Juifs en Eretz Israël. Ils vont être opposés à des Shomronim, à des Goyim qui se trouvent en Eretz Israël, qui vont les empêcher de construire le Beth Amidash. Et il va avoir toute l'histoire de Purim qui va commencer. Donc Purim, première fête, qui va se passer en Galoute, alors qu'Akadosh Baruch Hu avait permis le retour d'Eretz Israël et la construction du Second Temple. Je ne peux pas me passer de vous rappeler ce premier rachi sur Ezra qui explique la Megillat Esther. La Megillat Esther, ça commence par « Vahi bimei Achashverosh ». Ce fut malheureusement à l'époque de Achashverosh. Pourquoi malheureusement? Et Rashi nous explique. Malheureusement parce qu'Achashverosh, on avait le droit de retourner en Eretz Israël, mais Achashverosh interdit les Juifs de retourner en Eretz Israël et de construire le Beth Amikdash. Les jours de Purim, c'est des jours malheureux. Où, après avoir accepté la reconstruction de Jérusalem du Temple, les nations ferment les frontières. Et les rabbinim chez qui nous avons étudié, les élèves du Rav Yehuda Kook, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous disent c'est exactement ce que nous avons vécu il y a plus de 100 ans. Il va avoir la déclaration de Balfour en 1917, où les nations appellent les Juifs en voyant favorablement la construction d'un foyer national juif sur la terre en Palestine. Et juste après, les mêmes Britanniques qui disaient et se disaient Brits de l'Alliance pour pouvoir ramener le peuple d'Israël sur sa terre et reconstruire la Jérusalem, eux vont fermer les frontières avec le premier livre blanc, avec le deuxième livre blanc, le troisième livre blanc, empêcher les Juifs de retourner en Eretz Israël. L'histoire s'était refaite. Et on est en plein Purim où il va avoir la menace de Shoah de Haman et on va sortir vivant, mais on va rester en Galoute. La triste histoire d'Haman, une fois on avait posé la question à Rav Cherki, il a répondu de la façon suivante. On aurait dû pleurer à Purim. Parce que Esther reste chez Achashverosh, enfermée, emprisonnée. Mais malgré tout, il y a eu une Géoula. Malgré tout, il y a eu un sauvetage, une libération d'Israël, qu'on a été sauvé, on a pris conscience de notre que nous sommes nation. Mais pas assez fort pour que la nation, que les Juifs du monde entier retournent à Jérusalem pour reconstruire notre nation. On est resté en Galoute, mais on a pris cette conscience qu'on était Am Echad. Haman va dire « Mefouza ou Mefourad ». Il est dispersé, mais il est Am Echad. On a pris cette conscience qu'on était une nation. Mais on n'a pas eu la force de monter en Eretz Israël. Ça, c'est Purim. Après l'histoire de Purim, qui va monter en Eretz Israël? Ezra, avec 40 000 personnes. Dit la Maserhet, le traité Kiddushin. On monte en Eretz Israël. Et quand on monte en Eretz Israël, sous l'Empire perse, on construit, dit la Maseret Brachot, le traité Brachot, on Ezra raconte, c'est rapporté dans la Nagma, mais c'est rapporté dans les psukim d'Ezra, que d'une main, ils construisent les murailles de Jérusalem, et de l'autre main, ils tiennent le glaive pour pouvoir se battre contre les ennemis qui sont en Israël, qui empêchent les Juifs de reconstruire. Mais on va reconstruire le Beth Amigdash sous Ezra. Et là, le fameux Midrash, que le jour de l'inauguration du Beth Amigdash, du Temple de Jérusalem, eux pleureront de joie. C'est la génération du second temple qui, pour la première fois de leur vie, voit un temple à Jérusalem. Et eux pleureront de tristesse. Ce sont la génération qui ont connu le premier temple et qui voyaient que le second temple était tellement simple et tellement bas au niveau de sa construction et au niveau de sa spiritualité par rapport au premier temple qui pleurait de tristesse. Mais on a le Beth Amikdash, on a 40 000 Juifs qui sont à Jérusalem et en Eretz Israël qui sont retournés. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas ? Ben pour les Juifs, tout va bien. Il ne nous manque rien. De nouveau, on a le Beth Amikdash. De nouveau, on a les sacrifices. De nouveau, on peut faire Torah et Mitzvot en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui manque ? Les Juifs ne sentent pas le manque par excellence. Nachon, ils te disent, il manque la Shrina, il manque la présence divine. Mais comment ça ? Qu'est-ce qui manque ? Alors, je vais vous dire ce qui manque. Arrive la Grèce. Alors, regardez. Après que la Perse tombe aux mains des Grecs, Alexandre le Grand, sans vous montrer la frise, mais on y est, la construction du second temple, elle a été en 3408. 40 ans plus tard, Alexandre le Grand, la fameuse histoire d'Alexandre le Grand, avec Shimon HaTzadik, avec Simon le Juste, le grand Kohen qui avait reçu des Anshe Knesset Egdola, les gens de la Grande Assemblée, les sages de la Grande Assemblée, fait une rencontre, Alexandre le Grand, avec Shimon HaTzadik. Alexandre le Grand se prosterne devant Shimon HaTzadik. Ses soldats, Alexandre le Grand, lui dit « Mais comment tu te prosternes devant un vieux juif ?» Il lui dit, Alexandre le Grand va dire « L'image de cet homme-là m'apparaît en rêve à chaque début de conquête et c'est grâce à lui que je gagne mes guerres. » En tout cas, il y a une rencontre positive entre d'un côté la Grèce et d'un côté Israël. Bien sûr, positive. Pourquoi positive ? Parce que pour une fois, on rencontre un empire intelligent. Des gens cruels, ils sont prêts à dominer et à écraser les autres, mais ils ont des idéaux. Ils étudient. Alexandre le Grand, rappelez-vous, son professeur particulier, c'était Aristote. Et Aristote lui avait dit à Alexandre, dans chaque pays que tu viens, tu prends la faune et la flore que tu trouveras que nous ne connaissons pas, nous, en Grèce. Il veut développer le monde, il veut comprendre le monde, il emmène la culture, le théâtre, partout il emmène, il développe le monde selon leur façon de voir le monde, que l'homme est l'essentiel de ce monde-là et qu'il doit développer les forces de ce monde. Au début, l'homme Israël rencontre un peuple grec, une pensée grecque qui est belle et qui est sauf, l'homme comprend les forces qu'il a et on n'est pas là seulement pour manger ou pour tuer ou pour profiter de ce monde-là. On va développer ce monde. Et il y a une rencontre positive face à Israël et la Grèce. Et là, il va se passer une chose terrible. Alexandre le Grand va mourir. Il va avoir une division, le partage de son empire. Il va avoir les fameux Séleucides qui prennent la Syrie et font la conquête d'Israël. Et c'est eux qui ont l'esprit grec et qui sont en continuité, au moins d'une partie de l'Empire grec, qui vont dominer en Eretz Israël. Et là, ils vont commencer avec Antiochus IV, toute une histoire pourquoi il va faire ça, mais ils décident de porter atteinte à la vie religieuse d'Israël. On ne fait plus de Shabbat. On ne fait plus la Brit Mila. On ne fait plus le renouvellement du mois, le nomini du mois. On n'a plus le droit de témoigner du renouvellement du mois, du Rosh Chodesh. Et par rapport à la Brit Mila, on a dit, et par rapport surtout à l'étude de la Torah, interdiction d'étudier la Torah. Quand les Grecs portent atteinte, écoutez la phrase, à la vie religieuse, comme le Shabbat, comme la Brit Mila, comme l'étude de la Torah, c'est l'essentiel de la vie religieuse d'un juif, et surtout en galoute. Qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Ils décident de se rebeller et d'aller se cacher dans les méharot, dans les grottes, pour pouvoir continuer à faire leur mitzvot, leur Shabbat, etc., etc. Et il y a une histoire terrible que Sefer HaMakabim, le livre des Maccabim, qui raconte l'histoire des Maccabim, il faut lire ce livre. Il y en a qui disent que ça a été écrit par le Beth Shammai et Beth Hillel. En tout cas, c'est un livre, on ne va pas fixer la halakha en fonction de ce qui est marqué, mais au niveau de l'histoire et de l'esprit qui est marqué à l'intérieur, c'est sûr qu'il nous rentre dans l'esprit de Hanouka. Il va avoir une chose terrible, ils vont se battre, ils vont commencer la révolte avec les Hashmonaïm, les Asmonéens, Yehuda, Maccabi, ils vont commencer à se battre contre les Grecs. Mais pourquoi se battent-ils contre les Grecs? Et là, c'est ça la question. Ils se battent pour le Shabbat. Ils se battent pour vivre une vie religieuse, Brit Mila, de pouvoir faire la Brit Mila, de pouvoir de nouveau étudier la Torah tranquillement. D'accord? Et ils ont été confrontés à un dilemme terrible. Quel est le dilemme? Le Sefer Maccabim raconte qu'ils se sont enfermés, qu'ils faisaient la guerre le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils faisaient la guerre contre les Grecs. Et arrivé le vendredi, ils allaient se cacher dans les grottes le Shabbat. Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que pourquoi ils faisaient la guerre? Pour faire le Shabbat. Or, s'ils faisaient la guerre le Shabbat, eux disaient, mais on va enfreindre le Shabbat. Alors que toute notre guerre, c'est pour le Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'ils décidaient? De faire la guerre seulement la semaine. Et comme pour respecter le Shabbat, alors ils ne voulaient pas prendre un glaive, ils ne voulaient pas prendre les flèches, etc. Ils se cachaient et ils ne faisaient pas la guerre. Qu'est-ce qu'ont décidé les Grecs? Plus intelligents que tout le monde. Eux ne faisaient pas la guerre le dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi, jeudi, vendredi. Et arrivé le vendredi, ils partaient et allaient chercher les Juifs qui se cachaient dans les grottes. Et il va avoir dans une grotte un massacre de 1000 Juifs. Elef Yehudim Metu. 1000 Juifs sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas prendre les armes pour se battre Shabbat, parce qu'ils se battaient pour le Shabbat. Et là, Yehuda Maccabi, lorsqu'il entend cette catastrophe, que 1000 juifs, hommes, femmes et enfants, se sont fait tuer dans une grotte parce qu'ils se cachaient le Shabbat pour respecter le Shabbat et pour ne pas faire de guerre le Shabbat, parce que leur guerre, c'était pour les mitzvot, c'était pour le Shabbat. Alors, il dit, si on continue comme ça, mais il ne va plus avoir de Am Israël. Et là, ils vont commencer à comprendre qu'on ne fait pas la guerre pour le Shabbat. Mais pourquoi on fait la guerre? On fait la guerre pour sauver la nation du Shabbat. Pour sauver la nation qui fait le Shabbat. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Asher bachar banu mikol ha'amim. Hachem, il nous a choisis comme nation. Qui nous a choisis parmi tous les peuples. Il nous a choisis comme goy kadosh. Comme même les chet kohanim. Comme nation de prêtres. Comme une nation sainte. Et cette nation, venatalanu et torato. C'est cette nation qui a la Torah. C'est cette nation qui doit faire Shabbat. C'est cette nation qui doit mettre les tefillines. C'est cette nation qui doit faire la Brit Mila. Mais là, vous savez ce qui manquait? Il y avait le Beth Amikdash, il y avait les Korbanot. Mais même à l'époque où on pouvait faire la Torah et faire la Mitzvot et faire toute la vie juive et la vie religieuse, qu'est-ce qui manquait? Il manquait Israël. Il manquait Israël. Il n'y avait pas de nation d'Israël puisqu'elle était dominée par qui? Par la Grèce. Et là, Yehuda Maccabi comprend. Regardez combien de temps ça prend de reprendre conscience, de la conscience que nous sommes une nation, un goy. On est un goy kadosh. On est même les chet kohanim. On est une ouma. On est un peuple d'une nation sur une terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une indépendance. Ça veut dire qu'il faut avoir une malchut, une royauté. Ça veut dire qu'il faut avoir indépendance sur un territoire avec un roi. Et nous sommes indépendants. C'est seulement que nous sommes indépendants que nous pouvons être nous-mêmes. C'est ça qui manquait avant Hanouka. On était retourné en Eretz Israël parce que c'est Eretz HaKodesh. C'est le pays de la sainteté. Il y a les restes du premier Beth Amikdash et il y a la construction du nouveau. Quoi de mieux? Ils allaient au Kivré de Sadikim. Ils disent, mais tu te rends compte qui est enterré ici? Adam et Chava, Abraham et Sarah, Rivka, Léa, Rachel, elle est ailleurs. Yaakov et Yitzhak, ils sont enterrés là-bas. Shrem, ils sont enterrés à Yosef. C'est Eretz HaKodesh, je me balade, je revis le Tanakh. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est avant tout Eretz d'Israël. C'est la terre d'Israël. Comme la Torah est à Israël. Et comme le peuple, c'est le peuple d'Israël. C'est qui Israël? C'est une âme. Cette âme qui est une âme d'une nation. À une nation, il faut une terre. Eretz d'Israël. À une âme d'une nation, il faut des gens, un peuple. C'est le peuple d'Israël. Et à cette âme, il y a une nature particulière, c'est la Torah d'Israël. Et les Grecs nous avaient empêchés à redevenir nous-mêmes. Et comme nous n'avions pas compris le message, Akadosh Baruch Hu nous a retirés et nous a repoussés les actes des mitzvot. Mais grâce à l'acte des mitzvot, on n'a pas retrouvé seulement Shabbat, on a retrouvé la nation du Shabbat. On n'a pas retrouvé notre terre d'Israël, une terre sur laquelle on a retrouvé la terre d'Israël. On n'a pas retrouvé seulement la Brit Mila, on a retrouvé que cette nation, elle est différente des autres nations et qu'elle est capable d'élever la matière et de purifier la matière et de ne pas être influencée par la domination de la matière. Et là, c'est nous qui dominons la matière. On n'a pas retrouvé seulement la possibilité de nommer les mois et de renouveler le Rosh Chodesh. Et là, on a découvert qu'on était une nation qui fixait le temps. Que le temps n'était pas fixé par les forces de la nature, mais que l'on est cette nation qui fixe le temps. Et, extraordinairement, qu'est-ce que vont faire les Grecs ? Les Grecs vont attaquer les points, les mitzvot, qui dévoilent le niveau particulier de cette nation d'Israël. Quel est le niveau de cette nation d'Israël ? Ben, c'est très simple. Toutes les nations, donc la Grèce en particulier, Babel, on a commencé par l'empire de Babel, même Mitzrayim, même l'Égypte, les grandes nations, les grands empires qui ont dominé le monde et qui ont voulu prendre la place d'Israël. On a Babel, on a Paras, on a Yavan, on a Rome, Romi. Toutes ces nations sont nées, écoutez bien la différence, sont nées du bas vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont nés de la nature. Ils sont nés de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça n'a pas été une création divine. Ça a été une création que l'homme a créée. Bien sûr que tout vient d'Akadosh Bourou, etc., mais on va faire la différence. On a une création divine, que Hachem a fait la chose, ou que c'est passé par les voies de la nature. Bien, l'Égypte, c'est passé par les voies de la nature. La Grèce s'est formée par tel peuple qui venait de Philippins, de Macédoine. Il avait son fils qui était un génie, et Alexandre le Grand, et un génie en science, en sagesse et en génie militaire, et grâce à ça, il a pu rassembler des hommes sous une même idée, mais ils ont construit cet empire du bas vers le haut. La seule nation qui a été créée du haut vers le bas, qui a été créée de lui, c'est Amisraël. Et on va faire une différence. Tous les minéraux, tous les végétaux, tous les hommes et toutes les nations, ça a été créé par la nature. C'est un phénomène de nature. Le seul être qui n'est pas un être, mais qui est sur cette terre, qui relève du Kodesh, du divin, séparé de ce monde, différent de ce monde, pas séparé, différent de ce monde, c'est une erreur terrible que je viens de dire là, différent de ce monde, qui vient du Kodesh, c'est Israël. Israël, c'est l'être de Kodesh, l'unique sur terre. On est le seul qui dévoile le Kodesh sur terre. La dimension de sainteté. La dimension, comme vous avez vu avec le Rabbi Roche, du Shmona. Shmona, c'est les lettres, les mêmes lettres, vous avez dû le voir, de Neshama. C'est cette dimension qui est en dehors de la nature. Ça, c'est le peuple d'Israël. Même après tous les pogroms, toutes les guerres, tous les empires, toutes les destructions, tous les exils et toutes les diasporas, de nouveau l'homme Israël est de nouveau sur cette terre revient. C'est la dimension qui dépasse le monde naturel. Qu'est-ce qu'ont vu les Grecs ? Ont vu que le Kodesh, que cette sainteté pouvait être un danger pour le monde de la nature. Et quels sont les mitzvot qui dévoilent ce niveau de Kodesh ? Ben c'est simple. Toutes les mitzvot à côté desquelles on peut mettre le mot Kodesh. Et je vous donne un exemple. On a parlé de... Ils nous ont interdit d'étudier la Torah, le plus simple. Nous, qu'est-ce que nous disons ? L'étude de la Torah. Au début, les Grecs, on dit, c'est une nation qui étudie. Eux aussi étudient. Eux aussi aiment la sagesse. Mais après, ils ont compris la grande différence. La sagesse des Grecs est une sagesse humaine. Tu poses une question à ton cerveau et ton cerveau, tac, il répond. C'est l'homme avec lui-même. C'est le cerveau de l'homme avec le cerveau de l'homme lui-même qui se développe et qui a des réponses humaines aux problèmes, aux compréhensions qu'il veut comprendre. Chez nous, la Torah, ce n'est pas ça. Ça s'appelle Chochmat HaKodesh, la sagesse de la sainteté. Si la direction de la philosophie, c'est humain, c'est de horizontal, nous, c'est vertical, du haut vers le bas. Atachonen et Adam Dat. On dit à Kadosh Bourou, c'est toi, Dieu, qui gratifie à l'homme le Dat, la connaissance. Ou tous les jours, dans les Birkot HaTorah, on dit, Borat Hashem, Amelamet Torah, l'âme Israël. Tu es éternel, celui qui enseigne la Torah. C'est-à-dire qu'on parle de Nevoa, qu'on parle d'une parole prophétique. On se casse la tête dans le monde des yeshivot, dans le monde de Torah, on se casse la tête au niveau du sechel, de l'intellect. Et on pourrait se tromper qu'on fait le même travail qu'à l'université. Mais la différence, c'est que l'université, elle veut le résultat de lui-même, de l'humain lui-même. Alors que nous, on attend sa parole, son enseignement à lui. Ça vient du Kodesh, ça vient de l'au-delà, ça vient de Hesham, là-bas, Shamaim. Pas de l'homme. Et ce n'est pas par hasard que à chaque fois que Hanouka tombe, c'est dans les parachutes de Yosef. Ou quand Yosef, qui est ivri, qui relève aussi de cette construction d'une nation de Kodesh, tout le monde rêve autour de lui. Lui, il rêve, son père a rêvé, et il arrive en Égypte chez les nations, et Paro, lui aussi, il rêve. Il rêve d'un rêve qui concerne l'humanité tout entière. Quand on étudie le Kuzar et le Yom Rishon, le dimanche, par quoi ça commençait ? Un roi des Khazars, Goy, qui cherche le Hémet, lui aussi, il rêve. Mais le rêve, c'est quoi ? La Gemara nous dit le rêve de la même façon que c'est un 1/60 de la mort, le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Le rêve, c'est 1/60 de prophétie. Et c'est quoi le rêve ? Ce n'est pas l'action moi et moi-même. C'est de l'au-delà vers moi, du haut vers le bas ou de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, eux, on dit, il y a une sagesse qui s'appelle la Torah, mais c'est comme les sciences. Nous, on a crié haut et fort, non, il y a quelque chose d'au-delà de la matière, qui est Kodesh, qui est au-delà du monde, qui est au-delà de la nature, le divin. Eux, ils disent, il n'y a pas de divin, pas de limud Torah, interdiction d'étudier la Torah. Le Midrash dit, j'ai oublié cette chose, ils avaient dit, les Grecs avaient interdit de l'inhol et tabait, de fermer à double tour sa maison, pour empêcher la relation entre l'homme et la femme. Autre commandement qu'ils avaient dit, que la kala, le soir de la choupa, au lieu d'aller avec son khatan, elle va d'abord chez le agmondrila, elle va d'abord chez le chef d'armée des Grecs. Comment tu peux arriver à une bassesse aussi grande ? Et là, pourquoi ils faisaient ça ? Parce que nous, on disait, le mariage entre un homme et une femme, c'est Kodesh. Le mariage entre un khatan et une kala, ce n'est pas deux personnes qui se marient comme un chien et une chienne, comme un singe et une singe. Je ne sais pas ce qu'on dit, mais vous avez compris. Et là, quoi ? C'est un rapport entre deux êtres qui vont s'unir et au milieu de ces deux êtres, il va avoir la Shekhina, la présence divine. Zahu Shekhina Benehem. La Gemara dit, s'ils ont mérité, s'ils ont travaillé pour ça, alors la présence divine, elle sera dans le couple. Les Grecs, ils disaient, quoi ? Dans une relation entre un homme et sa femme, il y a la présence divine ? Non ! Il y a des instincts, instincts bestiaux, instincts animaux. Il n'y a pas de présence divine. Nous, on dit, c'est faux ! Quand j'étais sous la choupa, j'ai dit à ma femme, Ariat Mekoudeshet ! J'ai fait des kiddushin, des fiançailles, le mot Kodesh, c'est Kodesh ce qui se passe. C'est de l'au-delà, c'est des âmes qui viennent pour se rassembler. Et on ne connaît pas, nous, on est seulement le côté extérieur de quelque chose d'intérieur, de beaucoup plus profond, qui ne dévoile pas une chose de la nature, mais une chose qui dévoile du Kodesh. Donc, eux portaient atteinte à la famille. C'est pour ça que la mitzvah de Nerishu Beto, c'est les mitzvahs de Hanouka par rapport à la famille, parce qu'ils voulaient porter atteinte à la valeur transcendantale de la valeur familiale, du kécher, du lien entre l'homme et la femme. Ensuite, ils ont dit, mais pourquoi vous faites la Brit Mila ? Qu'est-ce qu'on fait le Mohel avant de faire la Brit Mila ? Il dit un mot, Brit Kodesh ! Vous avez entendu la prochaine fois que vous serez une Brit Mila ? Pas tout le monde qui dit ça, mais dans le monde d'Ashkenaz, beaucoup disent ça. Brit Kodesh ! Une Brit, une alliance de sainteté. La Brit Mila exprime que notre corps, qui vient du monde de la nature, n'est qu'un keli, un réceptacle pour recevoir le monde du divin. Les Grecs disaient, mais non, mais l'homme a des instincts. L'homme est un animal. Et tu ne peux pas dominer les choses qui sont l'instinct animal. Et forcément, l'homme va tomber. Et forcément, l'homme est dans les mains de la nature. Nous, on vient et on fait la Brit Mila. Dafka, à l'endroit où il y a l'expression de du profit naturel le plus grand au niveau du corps, c'est là-bas où on dit, nous, on dévoile le Kodesh. Et on réalise la volonté d'Hachem même dans ce membre-là. Brit Kodesh. Il y a quelque chose qui dépasse la nature, qui est la source de la nature et qui se révèle dans la nature, mais qui n'est pas de la nature. C'est le divin, c'est le Ein Sof. Le Rosh Kodesh. Qu'est-ce que disaient les Grecs ? Les Grecs disaient, mais attendez, vous fixez, vous, les mois, le temps. C'est-à-dire que si nous, on fixe le mois et le temps, ça veut dire qu'on décide quel enfant est né sous l'influence de Mars et sous l'influence de Vénus et sous l'influence de tout ça, d'accord ? Parce que les mois d'astrologie vont en fonction des mois juifs. Donc, ça veut dire que nous, on domine le temps. C'est nous qui dominons l'astrologie puisque nous, on décide quand est-ce que tombe Nissan. Là, par exemple, on fait Adar Bet. On décide qu'il y a un deuxième Adar, donc Nissan s'est déplacé. Donc, tous les enfants qui sont nés d'habitude, ils auraient dû naître au mois de Iyar. Là, ils vont naître au mois de Nissan. Comment tu peux changer les as ? C'est fixé, c'est déterminé. Là aussi, on disait le Kiddush HaChodesh, on appelle le fait de fixer les mois à Rosh Chodesh, on appelle Kiddush, la sanctification du mois. On dit Mekoudash, Mekoudash. Quand on voyait les témoins disaient qu'ils avaient vu la lune dans son renouvellement et qu'ils témoignaient au Beth Amikdash, le Sanhedrin disait Mekoudash, Mekoudash, sanctifié. Le mois est sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même le temps, il est un cli, un réceptacle du dévoilement du Kodesh. Je finis parce que je vois qu'il est tard. Une phrase. On se balade. J'arrive à Kiryat Moshe, moi j'habite à Roma, j'enseigne au Mahomir, je fais la route tous les jours, et je vois une grande affiche, cette semaine, la semaine dernière, encore c'est maintenant. Pitom, qu'est-ce que je vois? Un grand chanteur, on a le droit de dire, moi, vous imaginez bien qu'on ne reçoit aucune aide pour la pub, Avraham Fried, Ishai Rivo, à Jérusalem. Il a fait, Metsuyan, Tzadikim, Anashim Tovim, Yire Shamaim. Mais où ils font ça? Be'arena Birushalayim, à l'arène de Jérusalem. Quoi? À Hanouka, tu me fais une chose comme ça? Tu vas me faire le grand Avraham Fried, Chassid, Tzadik, Yire Shamaim, Michel Rivo, il parle français, il est né à Marseille, il a fait son alia avec le Rav Zuckerman, Tzadikim. Tu me fais à Hanouka dans l'arène? L'arène à Hanouka? C'est toute la Talmud des Grecs. Alors, je t'explique. Si tu te balades dans le monde, tu dis, ils sont trompés les Juifs, c'est les Grecs qui ont gagné. Parce que tout le système politique en Occident, tout, c'est Grèce. Alors c'est un peu le message de Yosef, des parachutes de cette semaine. Le côté extérieur, le côté technique, le côté constructeur, le côté développement de ce monde, et la science et l'université, waouh, magnifique. Ils ont trouvé un vaccin, ça a l'air de marcher. Je pense qu'on va avoir le 4e, 6e, 10e, jusqu'au 26e peut-être, mais ça a l'air de tenir, Kilos. Les Grecs savent construire le monde. La seule chose qu'ils ne savent pas, c'est pourquoi le monde et quelles sont les valeurs de ce monde. Et c'est pour ça que la Torah dira Shem, les Sémites, nous, ils doivent être dans le Yéphet. Yéphet, qui sont les engendres, les ascendants des Grecs, ils doivent être Beoal et Shem, ils doivent être dans les tentes de Shem. C'est-à-dire, ils doivent recevoir leur influence de Shem, c'est-à-dire du Ham Israël. Le Ham Israël doit donner la direction spirituelle. Pourquoi ce monde? Comment construire? Quelles sont les valeurs qui doivent construire ce monde? Mais dans le monde, comment il doit être construit? Alors, je peux faire confiance aux Grecs. Si les Grecs, si le monde occidental, il est à l'écoute de la voix d'Israël, de Kol Yaakov, alors, il y a la place au monde grec. Et au contraire, ensemble, eux qui sont Oumot Haolam, les nations de ce monde, elles sont capables de construire ce monde. Mais une condition, qu'elles doivent écouter, pas obéir dans le sens tu dois te soumettre, elles doivent écouter quel est le but de ce monde. Et eux appartiennent aussi dans ce monde. Et Baruch HaShem, ils ont un cli, ils ont un récepteur, ils ont une communication directe avec le divin à travers Israël. Le jour où le monde occidental sera à l'écoute d'Israël. Et ça commence, comme dit le Rav Kook, par des choses qu'ils peuvent comprendre. La réussite sociale, la réussite au niveau des nations, comme ça se passe aujourd'hui en Israël. Plutôt en Occident, on écoute ce qui se passe en Israël. Mais qu'est-ce qu'ils disent Israël? Ça, c'est au niveau technique. Mais on dépassera ce niveau et on arrivera à donner des véritables valeurs, un message de valeur. Et ça, c'est la lumière de Hanouka, d'apporter la lumière au monde entier. La lumière d'Israël, cette lumière que personne n'a pu éteindre parce qu'elle est hors de ce monde, mais elle est dans ce monde, qu'on a essayé d'éteindre, mais qui est restée perpétuelle, hors Ein Sof, la lumière du Ein Sof, et que les Umot HaOlam, elles soient des Kelim, soient des réceptacles pour pouvoir recevoir cette lumière. J'ai la Chem, Hanouka Sameach, une bonne fête de Hanouka, et plein de Gdusha. L'essentiel de Hanouka, ça commence par la Gdusha de la famille, se retrouver en famille, dans le Shalom, dans la Simcha, et petit à petit, de la famille, grandir ça à la communauté, et de la communauté, grandir ça dans le quartier, du quartier, grandir ça dans la ville du pays, dans le pays, dans le monde entier. Hanouka Sameach, Toda Rabba à tout le monde.
Merci beaucoup, Arav. Si je conclue en une phrase, si j'ai bien compris, alors, ce que vous avez dit, ce qu'il a dit tout à l'heure à Toubiano, en disant qu'il faut juste mettre le tzadik devant Yavan et ça fait Tzion. C'est...
Hazak, exactement.
Je colle tout, Arav. Toda Rabba.
Toda Rabba, merci beaucoup.